Près du quart des artères de Montréal sont en très mauvais état, Marie-France. Et n'importe quel automobiliste qui a, oui. qui a perdu un pneu, quand je dis perdre, pas nécessairement perdre le pneu, mais qui a brisé un pneu ou qui a perdu d'autres pièces sous sa voiture, le savent très bien. Il y a des endroits imprévisibles à Montréal. On ne voit pas le trou et on tombe dedans.
Exactement. Et des trous absolument énormes. C'est plus des nids de poules. C'est vraiment plus que ça. Et beaucoup de nos auditeurs et auditrices doivent le savoir. Et quand tu parles d'artères, le quart des artères, par artère, on entend des rues principales. Là, on ne parle pas des rues locales, des rues secondaires qui sont dans un état, je ne te raconte pas. Alors ça vient d'un exercice qui est le premier bilan de santé des rues depuis ceux réalisés en 2010 et en 2015. Il y a 9 ans, en 2010, 15% du kilométrage de rues des artérielles, là, les rues principales, étaient en très mauvais état. Il y a 4 ans, 26%. L'an dernier, c'est donc tombé à 22%. Ça s'explique par le fait, on le sait, il faut bien que les cônes oranges servent à quelque chose, 146 kilomètres de rue sont passés de très mauvais à excellent état en 3 ans. Donc, le travail qu'on voit sous nos yeux, il reste quand même 202 kilomètres qui sont en très mauvais état. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il y a du rattrapage sur les artères, j'insiste, parce que sur les petites rues, il n'y a rien qui se passe et ça se détériore. J'allais dire la mauvaise nouvelle. Je te dirais plutôt les mauvaises nouvelles. C'est qu'il y a encore beaucoup de chantiers en cours et à venir. C'est absolument exaspérant. Et le réseau local est abîmé au-delà de l'entendement. C'est un danger pour les autos, mais pour les cyclistes, pour les piétons qui se prennent les pieds là-dedans. Et c'est un sentiment de je m'en foutisme et une attitude d'abandon par rapport au réseau des petites rues. Souvent, on constate aussi qu'on fait ce qu'on appelle à la ville un pavage palliatif. Ça, un pavage palliatif, Paul, c'est pour ça que ça se détériore très vite. C'est fait de très mauvaise qualité parce qu'on calcule que d'ici 5 ans, on va réouvrir la rue. Fait que pourquoi se donner la peine de faire un pavage
c'est
de qualité?
C'est loin d'être sûr. C'est qu'on ne fait que remplir le trou et puis quelques jours après, le trou s'est revidé.
Non, ça, c'est le patchage. Le pavage palliatif, c'est quand on fait la rue au complet.
Ah, tu veux dire la rue
oui,
au complet?
Oui, la rue au complet. Ouais, la rue Follum, ils la refont à tous les ans. Les ans. Les
on
travaux...
aurait fait souvent Papineau, section Nord, au nord de la métropolitaine, qui a été pendant longtemps un des pires endroits à Montréal.
Exactement. Donc, tout le monde en connaît des rues comme ça. Je te dirais que beaucoup de travaux amènent un camionnage intensif et le camionnage intensif, c'est un cercle vicieux, dégrade les artères déjà fragilisées et ça, c'est partout en ville. Peut-être qu'il faudrait réduire sur certaines rues le camionnage, peut-être qu'il faudrait être plus regardant dans les périodes de dégel sur le poids des camions. L'autre question aussi que je me pose, est-ce qu'on a appris de la commission Charbonneau? Est-ce qu'on continue? Comment continue-t-on à construire les rues? À qui accorde-t-on les contrats? Je vais te donner juste un exemple que beaucoup d'auditeurs vont reconnaître. Le boulevard Saint-Laurent, direction Nord, quand tu passes en dessous du viaduc Bellechasse, on l'a fermé pendant 2 ans. On a fait un aménagement paysager. On a construit une immense piste cyclable. Il y a 3 voies qui passent, deux voies qui passent sous le viaduc, puis ça élargit à 3 en haut du viaduc. Eh bien, donc ça a été fermé pendant 2 ans, ça a réouvert il y a quelques mois. Eh bien, il y a déjà un trou qui couvre 2 voies de circulation. À qui a-t-on confié ces travaux-là? Ça a été fait selon quels critères? Avec quel genre de matériaux? Ça va durer et pour combien de temps est-ce que c'était garanti? C'est clair que l'hiver prochain, c'est un nid de poule énorme. Déjà, ça cogne très dur quand tu passes là. Alors, vraiment, le quart encore des rues qui sont en mauvais état, on a vraiment l'impression d'un laisser-aller généralisé. On a l'impression qu'on a capitulé à Montréal et j'élargirais au Grand Montréal. On a accepté d'être tout croche et on s'habitue à la médiocrité. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. C'est pas normal. Il y a rattrapage, mais ce n'est pas normal d'avoir des rues dans un état pareil.
Et permets-moi d'ajouter une extension à tout ce que tu viens de dire pour Laval.
Absolument.
Qui est tout de même la deuxième ou troisième ville en importance. Je parle de sa population. Oui. C'est lamentable, Marie-France. Oui. À Laval, c'est effrayant. Effrayant. Il y a des routes dangereuses tellement elles sont en mauvais état.
Oui, et là, on parle de villes, de ce qui relève des villes. Les autoroutes sont dans un état effrayant aussi.
ajoutons aussi les autoroutes.
Mais oui, tant qu'à y être.
Nous allons parler de ce qu'on considère, on peut le dire ainsi, l'affaire Vincent Lambert, une affaire, Marie-France, médico-politico-judiciaire, et qui nous amène au cœur du débat sur l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie en France.
Exactement. Cet homme, Vincent Lambert, a 42 ans. Il y a 10 ans, il a eu un accident automobile qui l'a laissé tétraplégique et il est dans un coma végétatif depuis ce temps-là. Et deux clans de la famille, alors sa femme son neveu et les six des frères et sœurs de Vincent Lambert sont pour le fait qu'on cesse de s'acharner et qu'on le laisse mourir. Et ça fait longtemps, donc, qu'ils se battent pour ça. Et les parents, qui sont des catholiques assez intégristes, ainsi qu'un frère et une sœur, disent « Non, il n'est pas malade, il est juste handicapé, il n'est pas mourant, il est handicapé et les handicapés ont le droit de vivre. » Ça s'est rendu à la Cour de Paris, auprès du Conseil d'État français, auprès de la Cour européenne des droits de la personne et auprès du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Par deux fois, on a cessé les traitements et la Cour a imposé que ça revienne. Et c'est encore arrivé la semaine dernière, à l'hôpital où il était hospitalisé à Reims. On a cessé les traitements et immédiatement, une Cour a ordonné qu'on reprenne les traitements. Et tout le monde, tous les experts médicaux sont unanimes. Il y a un caractère irréversible à son coma. Et avant l'accident, Vincent Lambert n'avait pas laissé de directives anticipées. Et son épouse et ses neveux disent qu'il avait pris quand même position contre l'acharnement thérapeutique. Et donc, ça se bat parents, avocats interposés. C'est vraiment une histoire qui déchire la France. Des politiciens ont commencé à s'en mêler de la droite catholique qui sont du côté des parents. Et c'est vraiment le symbole de l'acharnement thérapeutique. C'est un débat sur l'aide médicale à mourir, sur les soins de fin de vie. Et ici, je me posais la question, est-ce qu'on verrait ça, un cas Vincent Lambert, ici? Peut-être pas, grâce à la loi qui est passée, la loi sur les soins de fin de vie, qui a été menée vraiment par Véronique Yvon, mais qui a été un effort transpartisan. Donc, on ne verrait pas des politiciens se déchirer sur la question. C'est une loi qui inclut des soins palliatifs, qui inclut l'aide médicale à mourir. Tout est codifié et prévu au maximum, dans une très grande clarté juridique. Au maximum, je te dirais, de nos connaissances scientifiques et médicales, avec un souci de préserver la dignité humaine, le respect, la compassion, la sérénité. Il y a toutefois des zones floues, entre autres les cas d'Alzheimer, et qui font vraiment discuter sur des questions éthiques les gens qui s'occupent de personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et des soignants également. Notre société a certainement avancé dans ce débat-là. Le clergé n'a pas la même influence ici qu'en France. Ce n'est pas instrumentalisé par un courant catholique ou par des politiciens, mais il y a quand même du flou éthique dans notre loi. Si un cas Vincent Lambert se présenterait et qu'il n'avait pas émis de directive et que la famille se déchirait, probablement que ça pousserait notre loi dans ses ultimes retranchements et on s'apercevrait qu'il y a des espaces flous. C'est toujours extrêmement délicat, ces questions-là. Ça touche à des questions éthiques, ça touche à des questions morales, des questions vraiment très, très, très intimes. Mais ça va pousser certainement la France à revoir sa loi. Et ils songent même, eux, à y inclure dans la question de soins en fin de vie. Ils songent même à y inclure la maladie d'Alzheimer. Donc, ils iraient probablement plus loin que nous quand ils seront rendus là, mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Et c'est une question... Écoute, les grands mots sont sortis. C'est du meurtre, c'est de l'euthanasie voulez faire. C'est de l'assassinat, c'est de la barbarie. Mm-hmm. Vous voulez tuer les handicapés. Ouais. C'est complètement fou la manière dont ça se vit. Alors, on peut remercier nos élus d'avoir travaillé sur cette loi 52 qui nous aide quand même grandement, pas complètement, mais grandement.
Mais tu l'as dit, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur
ça. Ah oui.
Bon, c'est une saga. C'est
il va y avoir un film, il va y avoir une série télé, j'en suis persuadée.
Et ça vaut la peine de regarder ce qui se passe pour tenter de voir si un cas semblable, comme tu disais, se présentait ici.
Oui.
Quel serait l'encadrement de l'affaire, tu comprends?
Exactement, parce qu'il y a des zones de flou et le cas d'Alzheimer est un cas de flou auquel on n'a pas voulu toucher.
Oui.
Et je comprends pourquoi, c'est extrêmement délicat. Que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un qui souffre de la maladie de l'Alzheimer en stade vraiment 4 ou 5? On ne le sait pas exactement, mais quelle question éthique intéressante.
Merci beaucoup, Marie-France.
À demain, Paul.
À demain.